Vous êtes sur RFI, Radio France Internationale, il est 4h30 à Paris et à Kinshasa, 3h30 en temps universel.
Édouard Dupenoit.
Afrique Matin, ce sont 30 minutes ensemble, très largement consacrées à l'actualité africaine. Bonjour et bienvenue. Le premier journal d'abord est les Américains qui discutent avec les Congolais. La République démocratique du Congo est à la une, avec Washington qui confirme bien que le dialogue est ouvert avec Kinshasa autour des minerais rares, ces matériaux du sous-sol, obligatoires pour les nouvelles technologies et pour la transition énergétique. Mais d'un sous-sol où certains de ces matériaux se retrouvent dans des zones en partie contrôlées par le M23. Mandat de dépôt et inculpation au Tchad pour 4 personnes, 2 journalistes, dont Olivier Monodji, accusé notamment d'intelligence avec une puissance étrangère. Ils ont été transférés hier à la prison de Klesoum. À Majinga, sur la côte malgache, les promesses tièdement accueillies d'Andjradzoeln. Le président promet une montagne d'investissements dans tous les domaines, mais les principaux concernés attendent de voir concrètement des stades en pente, plein de nids de poules et sans éclairage intérieur. Au Kenya, l'auditrice générale dénonce de lourdes irrégularités au sein d'enceintes sportives qui doivent pourtant servir pour le prochain CHAN de foot au mois d'août. Le foot et la sélection ivoirienne dont on connaît la composition pour les prochaines journées des éliminatoires du Mondial. La Côte d'Ivoire aussi et le retour du commissaire Kwame, nouveau tome de la bande dessinée de Marguerite Abouet. On vous en parle à la fin du journal. Les États-Unis sont donc plutôt sensibles à la proposition congolaise d'exploiter des terres rares. On est encore bien loin d'un contrat dans les formes, mais l'administration américaine confirme bien qu'il existe des discussions entre Washington et Kinshasa à ce sujet. La République démocratique du Congo qui a bien noté l'intérêt que l'Amérique porte à ses ressources minières, le gros écueil restant que la plupart de ces mines se trouvent dans des zones où le conflit contre le M23 soutenu par le Rwanda fait rage. À Washington pour RFI, Guillaume Nodin.
Ce ne sont encore que des discussions exploratoires, mais elles existent officiellement. La diplomatie américaine le confirme à au moins 2 médias, l'agence Reuters et le Financial Times. Les États-Unis sont ouverts à la discussion de partenariats dans ce secteur qui sont alignés sur l'agenda America First de l'administration Trump, dit un porte-parole du département d'État, qui note que le Congo détient une part importante des minerais critiques nécessaires aux technologies de pointe. Parmi les minerais concernés, il y a le cobalt, le coltan ou encore le lithium. Le problème, c'est que les gisements sont dans l'est du pays, actuellement en grande partie occupé par le mouvement Alliance Fleuve Congo M23 soutenu par le Rwanda, que les autorités de Kinshasa accusent de contribuer au pillage et à l'exploitation des minerais rares. La proposition de discussion vient de Kinshasa qui a bien noté l'intérêt américain pour les ressources en minerais et terres rares. Elle a été exprimée par le président Félix Tshisekedi lui-même dès la fin février. La proposition ressemble d'ailleurs beaucoup à l'accord actuellement en discussion entre les États-Unis et l'Ukraine qui donnerait un accès à des intérêts américains aux minerais en échange de garanties de sécurité. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
4 personnes ont été placées sous mandat de dépôt et incarcérées au Tchad, dont notre confrère Olivier Monodji, ainsi qu'un journaliste de la télévision publique. Ils ont été entendus par plusieurs magistrats hier, dont le procureur près le tribunal de grande instance de N'Djamena. C'est lui qui précise que leur inculpation, notamment pour intelligence, intelligence avec une puissance étrangère. Esdras Dikoumana, ils ont été incarcérés à Klesoum et une nouvelle audition doit avoir lieu après-demain.
Le procureur de la République près le TGI N'Djamena a précisé dans sa courte déclaration aux médias tchadiens Al-Wida Info ce qu'on reproche aux 4 inculpés, des charges très lourdes, Oumar Mahmat Kedelaï.
Après leur interrogatoire, il a été constaté que les faits qui leur sont reprochés sont constitutifs d'infractions, des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Tchad, à ses intérêts économiques, de complot contre l'État et de complicité. Eu égard à la gravité des faits, une information judiciaire a été ouverte pour citer la responsabilité de tout un chacun.
Les 4 hommes ont ensuite été entendus par le doyen des juges d'instruction qui les a inculpés pour intelligence avec l'ennemi et pour complot ou encore atteinte à la sécurité du territoire national qui est passible d'une peine de 20 à 30 ans de prison selon un des avocats d'Olivier Monodji. Celui-ci dénonce un dossier vide à ses yeux, Maître Amos Alata.
On attendait qu'il nous dise le degré d'implication de notre client qui est journaliste de profession. Nous lui avons rappelé à la police du judiciaire, on lui a présenté que des coupures de presse dont il a reconnu la publication dans son site du journal Le Pays. Des informations qui ont un caractère plutôt publicitaire. Mais on n'a pas dit qu'est-ce que M. Olivier a fait concrètement.
La mission du doyen des juges d'instruction a approfondir celle-ci pour situer la responsabilité de chacun des mises en cause. En attendant, tous les quatre ont été placés sous mandat de dépôt et acheminés vers la maison d'arrêt de Kressoum pour y être incarcérés.
Esdras Dikoumana, l'actualité judiciaire encore, c'est au Mali avec ce second report hier du procès de l'opposant Saïdina Touré, lui qui devait d'abord commencer jeudi dernier. L'audience avait été renvoyée à hier, mais elle ne s'est pas tenue. On rappelle que l'opposant malien, membre du parti Alternatif pour le Mali, est emprisonné depuis le début du mois de janvier, poursuivi notamment pour atteinte au crédit de l'État, après des messages publiés sur les réseaux sociaux dans lesquels il qualifiait les autorités militaires putschistes de l'AES, je cite, de junte et appelait à combattre le régime anarchique d'Assimi Goïta, je citais encore. Son procès a été une nouvelle fois renvoyé, cette fois à lundi prochain. Dans les deux cas, c'est l'absence de la direction générale du contentieux de l'État qui ne s'est pas présenté à l'audience qui a justifié ces reports. Plein phare sur Majunga maintenant. Le président malgache veut montrer qu'il met le paquet sur les développement de cette ville côtière. Après la reprise annoncée de la liaison maritime vers les Comores, le Conseil des ministres a même été exceptionnellement délocalisé sur place. Andjra Zoen en a profité pour annoncer une multitude de projets, infrastructures, réhabilitation routière, couverture électrique. Sarah Teto, sans parvenir entièrement à convaincre les premiers concernés.
Construction de deux centrales solaires, dont l'une qui sera opérationnelle sous 3 mois, promet Andjra Zoen. Forage, modernisation du port, réhabilitation complète de la RN4, l'unique route reliant Majunga à la capitale, réfection des principales artères de la ville. À l'écoute de toutes ces annonces, Thiori, étudiant, s'est d'abord réjoui.
Moi, je mets 1h30 pour parcourir les 9 kilomètres qui me séparent de l'université parce qu'il y a plein d'embouteillages à cause des trous. Les routes en ville sont en très mauvais état. Des routes réparées, de la lumière partout, tout le temps, ce sont des bonnes nouvelles. Parce qu'ici, on se sent un peu oublié puisqu'on n'est pas de la capitale. Mais est-ce que ces promesses vont être tenues? Ici, les gens ne croient plus trop aux promesses du président.
Chez les opérateurs économiques, pas d'euphorie, bien que le besoin en infrastructures et en énergie soit immense. Pourtant, aucun groupement d'entreprises n'a souhaité réagir officiellement à ces annonces. Trop risquées, nous rétorque-t-on. Cet entrepreneur a accepté de s'exprimer à l'unique condition que sa voix soit modifiée.
Ce sont des effets d'annonce pour endormir la population, pour faire du favoritisme sur certaines personnes, certaines sociétés. Tout le monde le sait, personne ne le cache, mais personne ne le dit. La liberté de parole n'existe plus à Madagascar.
Qu'importe les critiques, l'ordre a été donné d'agir vite. Le chef de l'État a imposé un délai de quelques mois à ses ministres pour concrétiser ses projets.
Sarah Teto, 6h bientôt 38 à Antananarivo Majunga, 5h38 à Djouba. Le Soudan du Sud, où après les Nations Unies, c'est l'International Crisis Group qui se montre à son tour très inquiet sur la flambée des violences. Il y a près d'un mois, des affrontements ont éclaté dans l'état du Haut-Nil, dans le nord-est du pays. Une milice réputée proche du vice-président Riek Machar s'est emparée d'une base militaire. Elle a même fait plusieurs dizaines de morts la semaine dernière dans les rangs de l'armée régulière. Des proches du vice-président ont été arrêtés. La propre résidence de Riek Machar a été encerclée. Mais le président Salva Kiir a appelé au calme en promettant que son pays ne sombrerait pas de nouveau dans la guerre. L'ICJ explique aujourd'hui que la situation au Soudan du Sud est intimement liée à la guerre au Soudan voisin qui a considérablement asséché des revenus financiers sud-soudanais. Le détail de ce rapport avec Paul Lorgerie.
Selon le rapport de l'ICJ, la tension est à son comble dans la capitale Djouba. Depuis quelques semaines, le Soudan du Sud est le théâtre de recomposition politique qui risque de faire voler en éclats l'accord de paix de 2018. La faute à la guerre au Soudan et plus particulièrement à la coupure de l'oléoduc servant à exporter le pétrole sud-soudanais vers Port-Soudan, selon Daniel Akesh, analyste au sein de l'ICJ spécialisé sur le Soudan du Sud.
La donne a récemment changé car, depuis un an, les revenus liés au pétrole se sont effondrés en raison de la guerre au Soudan. Il est donc devenu difficile pour le gouvernement de verser les salaires. C'est ce qui marque le début du problème.
Coupé de sa principale source de fonds qui servait son réseau clientéliste et donc la stabilité de son gouvernement, Salva Kiir s'est récemment rapproché du général Emeti, chef des FSR, s'éloignant ainsi du général Al-Burhan à la tête de l'armée soudanaise. Cette dernière, elle, aurait réactivé d'anciennes connexions avec des milices nuaires affiliées à Riek Machar. Un cocktail qui a donné lieu le 4 mars dernier à la prise d'une base militaire dans la ville de Nasir par la White Army, alliée de Riek Machar, dont beaucoup de sympathisants ont été arrêtés par la suite. suite. Si le vice-président est resté calme pour le moment, Daniel Akech prévient que des milices qui lui sont restées fidèles se tiennent non loin de la capitale sud-soudanaise.
Paul Lorgerier, pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevions hier Emmanuelle Veuillet, doctorante en sociologie politique, notamment à l'Institut des Mondes Africains. Elle était l'invitée d'Arthur Ponchelet dans Afrique Midi. Vous retrouvez cet entretien sur notre site rfi.fr. Les 6 mois de délai accordés pour le championnat d'Afrique des Nations vont-ils suffire? Le dernier rapport de l'auditrice générale du Kenya laisse s'installer le doute, puisqu'au mois d'août prochain, le pays doit accueillir le CHAN, la CAN des joueurs locaux, avec la Tanzanie et l'Ouganda. Mais la synthèse rendue ces derniers jours par Nancy Gatungu pointe des irrégularités dans la réfection nécessaire de certains des stades de foot, entre ceux dont les chantiers sont purement et simplement au point mort et ceux dont les terrains sont indignes d'accueillir des rencontres internationales. Gaëlle Alex.
C'est une véritable gabegie que révèle l'auditrice générale dans son dernier rapport. Elle concerne plusieurs stades notoires de Nairobi, comme l'ancien City Stadium, rebaptisé aujourd'hui Stade Jokadenge, temple du football kényan. Cette infrastructure n'a pas accueilli de compétition majeure depuis près de 10 ans. Sa réfection est lancée en août 2023, mais un an et demi plus tard, le projet est au point mort, d'après l'auditrice générale. Le constructeur a abandonné le chantier, après avoir perçu néanmoins la moitié des frais engagés, soit 41 millions de shillings, plus de 290 000 euros. Autre sujet de préoccupation, le stade de Dandora. Sa réfection a coûté 223 millions de shillings kényans, plus d'1,5 million d'euros. Malgré cela, sur place, l'auditrice générale a trouvé des projecteurs défectueux, aucun système d'éclairage intérieur et un terrain en pente avec des nids de poules. Les deux grands stades qui devront accueillir les compétitions de la CAF ne sont pas mentionnés dans le rapport, mais le Kenya avait promis une amélioration globale de ses infrastructures, dont notamment des terrains d'entraînement. En janvier, la CAF a annoncé le report du CHAN de février à août 2025, faute d'infrastructures aux standards internationaux. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
Et avant de penser au championnat d'Afrique des Nations, ce sont les sélections qui voient arriver les 5e et 6e journées des éliminatoires pour le Mondial de foot, et les champions d'Afrique en titre dévoilent leur liste. Et Mers Faye, le sélectionneur ivoirien, va s'appuyer sur 23 joueurs face au Burundi et à la Gambie, avec l'objectif très net de rester en tête du groupe. Et parmi ces 23, des cadres, Ibrahim Sangaré, Sébastien Haller, pour ne citer que, mais aussi des joueurs moins expérimentés, la stratégie n'étant pas tout à fait la même, nous dit le sélectionneur, que pour la Coupe d'Afrique des Nations.
On avait une stratégie pour les matchs de qualification à la CAN qui était basée sur la performance, parce qu'on avait des matchs très très rapprochés, donc il fallait que les joueurs soient tout de suite compétitifs. Pour cette fenêtre, compte tenu de l'importance de ces deux matchs, qualif Coupe du Monde, on est parti sur un groupe avec un peu plus de joueurs d'expérience. Et on a essayé de faire un mix entre l'expérience de nos anciens et la fraîcheur de nos jeunes joueurs. Donc on est parti sur une liste, on va dire, mixte. Bien sûr, il y a toujours les critères de performance. On ne va pas sélectionner 23 joueurs qui ne sont pas performants en club et qui n'ont pas de temps de jeu. Mais pour les dernières trêves, on partait vraiment que sur des joueurs qui étaient compétitifs et performants en club. Donc là, on a ouvert quelques places en regardant vraiment le côté leadership. C'est pour ça d'ailleurs qu'un joueur comme Willy Boly fait son retour dans le groupe. Donc on a essayé de trouver, on va dire, un juste milieu pour mélanger entre la fraîcheur et l'expérience.
Et Mers Faye, le sélectionneur des éléphants, avec Mohamed Lamine. Toute l'actualité sportive, c'est dans une heure. Journal avec Antoine Grenier tout à l'heure. C'est une autre star ivoirienne, enfin, à ceci près qu'elle n'existe pas vraiment. Un policier qui se retrouve à enquêter dans une ville française pour sortir sa nièce d'un trafic d'êtres humains. C'est le programme du tome 3 des aventures du commissaire Kwame, personnage de bande dessinée imaginé par Marguerite Abouet et Donatien Marie, les chefs de la police d'Abidjan. Il est aussi incorruptible que colérique et irascible, mais il va avoir fort à faire dans cet album qui s'intitule « On ne fait pas de feu sous un arbre en fleurs ». Il vient tout juste de sortir chez Gallimard et Sophie Torlotin l'a lu pour nous.
Nerveux, cheveux blancs sous son Stetson bleu et toujours impeccablement vêtu, le commissaire Marius Kwame est chargé de retrouver un narcotrafiquant en fuite. Dans cet album à la fois pétaradant et très noir, Marguerite Abouet entraîne le lecteur dans les bas-fonds de la capitale ivoirienne.
Quand je vais à Abidjan, il y a tellement de... on appelle ça des wanches. C'est un peu une sorte de favela où il n'y a que des laissés pour compte, en fait, complètement drogués. Même à Cocody, un quartier assez chic, et vous avez ces belles maisons, et puis juste en dessous, c'est cette zone-là où plus personne n'y va. Et je me suis dit, mais c'est incroyable.
Ce n'est que le point de départ d'une enquête qui va entraîner l'incorruptible policier ivoirien sur la piste d'une filière de prostitution. Pour retrouver sa nièce, il va devoir se rendre à Angoulême, dans le sud-ouest de la France. Une idée qui a germé dans les têtes des auteurs lors d'un précédent festival de la bande dessinée.
Il y a 2 ans, lors de la sortie du commissaire Kwame 2, il y a le commissaire d'Angoulême qui fait la queue pour avoir une dédicace. Et puis, il nous fait visiter le commissariat d'Angoulême. Donc, je trouvais ça intéressant de faire justement se confronter les deux systèmes.
Et les méthodes d'interrogatoire qui diffèrent entre la France et la Côte d'Ivoire. L'enquête est menée tambour battant, mais s'achève sur un suspense qui donne envie de lire la suite.
On ne fait pas de feu sous un arbre en fleurs, le tome 3 des aventures du commissaire Kwame sorti chez Gallimard. Sophie Torlotin, merci beaucoup.
Afrique Matin sur RFI.
Et voici le menu de la deuxième partie, le chikungunya qui risque de s'étendre à la Réunion. Après le passage de Garance, on en parle avec les confrères de la première dans 10 minutes, 3h54 TU. Le Japon voit exploser le prix de son riz, celui que les habitants ont l'habitude de consommer alors que la tendance mondiale est plutôt à la baisse. Retour aussi aux abords du Simandou. Notre envoyé spécial en Guinée rencontre des communautés que les compensations financières ont profondément chamboulées. Mais retour aussi, et en premier lieu, à Maïdougouri, second volet de nos reportages dans cette capitale régionale de l'état du Borno, ce nord-est nigérian où, peu à peu, la menace du groupe Boko Haram semble se stabiliser, bien loin de l'insurrection violente et généralisée des années 2010. Les terroristes semblent s'être plus ou moins repliés aujourd'hui autour du lac Tchad. Ils ont perdu de leur influence, et la ville de Maïdougouri le ressent. Des millions de personnes s'y sont réinstallées dans la ville et aux alentours ces dernières années. Celles et ceux qui ne l'ont jamais quitté voient bien d'ailleurs que les affaires reprennent. Moïse Gomis signe ce deuxième volet.
Saleh Babagana répond à un client sur sa montre connectée. Revendeur de téléphones d'occasion dans les rues de Maïdougouri il y a encore 4 ans, ce grossiste distribue désormais des marques premium de smartphones dans une boutique climatisée. À 28 ans, Saleh n'a pas du tout l'intention de quitter le Nigeria.
Tout a commencé comme un pari pas très sérieux. Un ou deux clients nous ont fait confiance et maintenant nous sommes bien établis en tant qu'entreprise. Beaucoup de nos clients viennent des pays voisins qui utilisent le CFA. Ils achètent nos produits au prix de gros, entre 1000 et 2000 pièces de smartphone. Et parfois jusqu'à 5000 appareils d'une certaine marque de téléphone ont été achetés ici.
Comme Saleh, Adjara a vécu toute son adolescence à Maïdougouri. Sous ses yeux, elle a vu mourir un camarade de classe, puis échapper à un attentat à la bombe. Malgré ses traumatismes liés à Boko Haram, cette dirigeante de PME n'a jamais envisagé de quitter sa ville.
Avant d'ouvrir mon magasin, je faisais mes affaires à la maison. À cause des explosions de bombes et de Boko Haram, c'était la panique. Les gens s'enfuyaient de chez eux. Cela n'a pas été facile, mais grâce à Dieu, nous sommes bien débrouillés pour survivre.
Aujourd'hui, Adjara emploie une dizaine de personnes et les parfums d'intérieur qu'elle crée s'exportent au Niger, Cameroun, mais aussi au Ghana et jusqu'au Canada. Adjara se sent épanouie en vivant et en travaillant à Maïdougou.
J'ai choisi de rester pour inspirer les jeunes femmes d'ici. Beaucoup ont l'impression qu'on ne peut pas s'accomplir et que nous ne pouvons pas y arriver dans la vie. Alors que ce n'est pas le cas. Quelle que soit notre personnalité, on peut réussir chez soi. Tout ce qu'on souhaite dans la vie, on peut le réaliser. Alors migrer, ce n'est pas une option pour moi.
Et Adjara ne comprend pas pourquoi au Nigeria, des dizaines de milliers de gens de sa génération se risquent à tout sacrifier pour un visa pour l'Amérique ou pour l'Europe. Moïse Gomis, de retour de Maïdougouri, RFI.
Deux reportages dans ce Borno nigérian que vous réécoutez quand vous voulez sur notre application dédiée. RFI Pure Radio, 3h49 TU, les titres.
RFI, toute l'actualité, Édouard Dupenoit.
Et l'actualité internationale de ce 11 mars 2025, ce sont les autorités syriennes de transition d'abord qui annoncent la fin de l'opération militaire dans l'ex-bastion de Bachar al-Assad dans l'ouest du pays. Opération qui se solde par la mort de plus de 1000 civils, surtout issus de la minorité alaouite. Bilan fourni par l'OSDH qui fait état aussi de 231 morts dans les rangs des forces gouvernementales et 250 du côté des insurgés. Précision de Muriel Paradon dans 10 minutes à la une du prochain journal. Le nouveau régime syrien par ailleurs qui annonce un accord pour intégrer toutes les institutions civiles et militaires qui relevaient de l'administration autonome kurde dans le cadre de l'État syrien. Moscou visé par une attaque de drones ukrainiens cette nuit selon le maire de la capitale russe. Et cela alors que l'Ukraine doit exposer aux États-Unis lors d'une réunion en Arabie Saoudite un plan pour un cessez-le-feu partiel avec la Russie dans l'espoir de retrouver retrouver le soutien de Washington après le récent cataclysme dans leurs relations. Le Groenland enfin aux urnes aujourd'hui pour des élections législatives qui pourraient esquisser un calendrier menant à l'indépendance. Convaincu de pouvoir s'emparer du territoire autonome danois de 57 000 habitants, Donald Trump a tenté jusqu'à la dernière minute de peser de tout son poids dans le scrutin. La suite d'un autre dossier comme promis pour Afrique Économie, reportage dans les traces du Simandou. Retour en Guinée, où la transition promet que 2025 sera l'année de l'exploitation du fer, un gisement dont les autorités attendent de gigantesques revenus. En attendant, les sociétés exploitantes continuent de construire les infrastructures qui permettront d'acheminer ce fer vers la mer. Et pour ça, elles doivent indemniser les villages et les communautés locales chez qui elles percent des chemins de fer. Elles construisent des bases ou elles creusent en profondeur. Sauf que ces indemnités, cet argent, contribue à bouleverser aussi très profondément les équilibres locaux. Illustration dans ce reportage d'Alexis Bédu.
Vous voyez, il n'y a plus d'eau. Vous voyez, regardez.
Avant, vous aviez de l'eau.
Oui. On avait de l'eau. On avait une grande fleuve ici. Ils ont arraché tout.
Il a une vingtaine d'années et la rage en lui.
On n'a rien ici. On n'a pas de l'hôpital, des marchés, rien. Même de l'eau à boire. Les jeunes ne travaillent pas. Regardez-nous.
Son village est sur le tracé du chemin de fer en construction, tout près du port minéralier. Il en veut aux autorités et aux sociétés minières, car il a l'impression que le projet Simandou ne lui a rien apporté, ni emploi, ni sérénité. Et quand il passe à Conakry, la capitale...
Quand vous descendez là-bas, ils vont vous dire que vous êtes les boss, il y a un grand projet chez vous, il y a le grand port de la Guinée qui se trouve chez vous, vous êtes les boss. Mais les gens ne savent pas ce qui se passe ici.
Et ce qu'il se passe ici, à écouter les villageois, c'est un boulot. Bouleversement total dans les communautés. Les compensations financières octroyées par les sociétés minières ont chamboulé la vie de certaines familles, explique ce villageois.
Quand il y a compensation, les sommes sont si faibles que ça crée des divisions dans les familles. C'est tellement peu qu'on a du mal à se partager l'argent. Là où nous sommes, la famille de cette maison a été confrontée à ce problème. Il y a eu un conflit entre les frères et certains ont dû partir.
Les entreprises ont l'obligation légale de compenser les propriétaires terriens impactés par le projet. Chaque entreprise déroule son propre mécanisme et ils sont très disparates. Mamoudou Youla est un habitant de Sungaya.
Ici, pour un domaine d'un hectare, les sociétés ont donné entre 35 et 40 millions de francs guinéens.
Soit environ 4 000 euros. Près de Farana, l'année dernière, les habitants de deux villages, Laya Sando et Laya Doula, se sont violemment affrontés à plusieurs reprises à cause d'un différend lié aux compensations versées par Winning Consortium Simandou. Oumar Totiabari est directeur exécutif de l'Observatoire guinéen des mines et métaux.
Le long du corridor, on a assez de familles aujourd'hui qui se retrouvent devant les tribunaux, déchirés pour la gestion de cette compensation. C'est des montants énormes qui se chiffrent parfois à des milliards de francs guinéens qui sont en jeu entre des familles et des personnes. Il y a ce manque de préparation des communautés, mais aussi des instances de gouvernance locale, parce que derrière, il n'y a pas un cadre réglementaire suffisamment robuste.
Alexis Bédu, de retour de Sungaya, RFI.
Un troisième volet de ces reportages Afrique Éco. Demain, même heure, même antenne. L'économie encore et l'actualité des matières premières sur un marché très spécifique, celui du riz japonais. Les prix ont augmenté de 70% sur un an, très anormal, dit même le ministre de l'Agriculture, qui commence d'ailleurs à vendre des grains tirés des réserves d'urgence. Que se passe-t-il donc dans l'archipel nippon et pourquoi cette hausse alors que globalement les coûts sont en train de baisser? Réponse avec Marie-Pierre Olfan.
À l'origine de cette hausse, il y a d'abord une mauvaise récolte en 2023 qui a entraîné moins de disponibilité en 2024 et ensuite une forte demande l'été dernier liée à la crainte d'un séisme majeur. L'alerte donnée par les autorités a fait paniquer les habitants qui ont réalisé des stocks et vidé les rayons des magasins. À cela, il faut ajouter une dose de spéculation comme c'est souvent le cas quand un marché devient tendu. Pour inverser cette spirale qui tire les prix vers le haut, le gouvernement a donc décidé début mars de puiser dans ses stocks stratégiques. Les autorités attribueront d'ici demain 150 000 tonnes de riz aux enchères et envisagent d'en libérer 60 000 tonnes supplémentaires si besoin. Le Japon gagnerait à importer car sur le marché mondial, les prix sont en baisse depuis fin septembre. C'est à cette période que l'Inde, le premier exportateur, a remis plus de riz en circulation après des mois de restrictions et actuellement l'offre dépasse la demande. Mais le Japon est un marché très spécial. Les Japonais consomment essentiellement leur variété de riz et pas le riz importé. C'est une question d'habitude alimentaire. Donc pour schématiser, le marché du riz japonais est insensible aux prix pratiqués sur le marché mondial. Mais le Japon importe cependant du riz, même s'il a refusé pendant longtemps de le faire par protectionnisme. Il a été contraint d'ouvrir son marché intérieur sous pression de ses partenaires commerciaux dans les années 90. Aujourd'hui, le pays importe 8 à 10% de ses besoins, soit environ 700 000 tonnes par an. Ce sont des importations plutôt stables, mais qui sont destinées surtout à l'industrie et à l'alimentation animale.
Marie-Pierre Olfan pour l'actualité des matières premières. On en vient à l'actualité dans les territoires français de l'océan Indien et on parle de la Réunion d'abord, où les autorités craignent de voir une explosion des cas de chikungunya. Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour. Les chiffres n'étaient déjà pas très bons avant le passage du cyclone Garance et 20 ans après la grande épidémie de chik de 2005. Cette année, c'est le sud de la Réunion qui semble le plus touché par cette pathologie douloureuse et handicapante. Reportage à Saint-Louis et aux Avirons, signé Lise Dumont.
Léa Maté, la trentaine, kiné aux Avirons, et Carole Bourquin, riviéroise retraitée. Ces deux femmes ne se connaissent pas, elles ne se sont jamais rencontrées. Elles ont pourtant un point commun.
Chikungunya positif.
La semaine dernière, la douleur a toqué à leur porte.
Je ne pouvais plus fermer mon poing, je ne pouvais plus ni déplier, ni replier mes genoux, parce que ça me faisait très mal.
Fièvre, grosse douleur articulaire, j'avais même mal au bras. J'ai pensé, oui, que c'était le chik.
Et pour Léa, il n'y a pas de mystère, elle l'a attrapé.
À mon travail, où on a beaucoup de moustiques. 5 kinés et on est 3 à être malade.
Chez moi, j'ai quelques moustiques comme partout, mais pas tant que ça. Donc, je ne sais pas du tout.
Après 2 jours de paracétamol, le plus gros de la crise est passé. Pour Carole, les journées restent pénibles.
J'ai encore mal par moments. Je suis très, très fatiguée. Puis c'est des pics de fatigue, en fait. J'espère que ça va passer.
Léa n'a pas pu reprendre le travail.
Je ne pouvais pas descendre les escaliers, non. Quand même, ça fait très mal. Là, j'ai encore des douleurs, mais ça va.
Sa préoccupation à présent, c'est de stopper la propagation du chikungunya.
Oui, j'espère que l'ARS va passer pour démoustiquer. Ouais, en ce moment, en plus, depuis le cyclone, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moustiques.
La semaine précédant le passage de Garance, l'ARS a recensé 1300 nouveaux cas de chikungunya à La Réunion.
Quand un ancien Premier ministre, Manuel Valls, 2014-2016, rencontre son ancienne ministre des Outre-mer, Erika Barretz, 2016-2017, il ne se raconte pas forcément de vieux souvenirs, mais discute du présent. Le présent étant en l'occurrence la remise en état de la Réunion après le passage de Garance. Et celle qui est aujourd'hui maire de Saint-Denis n'a pas manqué de réclamer davantage d'investissements de l'État à celui qui dirige désormais le ministère des Outre-mer et qui était la semaine dernière en déplacement à La Réunion. Erika Barretz est au micro d'Olivier de la Richaudie.
À Saint-Denis, on a emmené le ministre des Outre-mer à la rivière du Butor, parce que c'est celle-là qui a débordé, oui, et qui a failli noyer tous les gens du Caricube. Et pour lui dire, voilà, ça c'est votre compétence. Les rivières et les ravines, c'est pas les compétences des maires. Alors il faut arrêter de tout renvoyer sur les maires, alors que nous avons ni la compétence, ni l'argent. Aujourd'hui, il faut absolument, sur les ravines qu'on est, on n'a plus endigué depuis au moins 20 ans. Il faudrait qu'il y ait un plan national, financé par des fonds européens, par des fonds nationaux, par des fonds locaux s'il faut, et puis aussi curer les rivières, c'est-à-dire enlever les grosses roches, enlever les arbres qui sont tombés, les saletés. On ne peut pas le faire non plus. Donc, on a demandé au ministre de faire ce débat-là. Il faut que la Réunion décide si on met l'argent pour protéger les populations, oui ou non.
Sachez encore que plusieurs milliers de foyers sont toujours privés d'électricité 9 jours après le passage de Garance. Selon EDF, il s'agit à présent de s'occuper des cas dits isolée. S'agissant de l'eau courante, la situation serait désormais rétablie dans 22 communes sur 24, à l'exception de Saint-Benoît et de Saint-Denis. S'agissant enfin des réseaux Internet et mobiles, près de 90% de la population a pu retrouver une connexion Internet et mobile stable. Fin de cette édition. Bonne journée.
Bonne journée, Benoît Ferrand. Fin aussi de cette édition africaine avec Lorraine Nemoza à la réalisation et Pierre Pinto à la rédaction en chef. Le journal dans tout juste 30 secondes.
Ce mardi, vivez sur RFI, la soirée spéciale Ligue des Champions. Cédric de Oliveira.
Revanche immédiate pour le PSG. 6 jours après sa défaite in extremis, le club parisien va retrouver Liverpool à Anfield. Il faudra absolument l'emporter par 2 buts d'écart face au partenaire de Mo Salah pour espérer se qualifier. Liverpool-PSG, 8e de finale retour de la Ligue des Champions. C'est à vivre en direct et en intégralité ce mardi à partir de 19h41 sur RFI.